Vous écoutez RFI et je vous en remercie. Il est 21h ici à Paris, 22h à Beyrouth.
Martin Guez.
Au Proche-Orient, c'est le jour d'après pour la population libanaise. Des milliers de déplacés reprennent la route de leurs villes et villages dévastés après l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu qui ne fait pas tout à fait l'unanimité côté israélien, vous l'entendrez. En Namibie, journée de vote, longue file d'attente pour les élections législatives et présidentielles. La SWAPO, parti historique au pouvoir, est menacée. Au Pakistan, retour au calme relatif. Après les énormes manifestations des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan, des centaines d'entre eux ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Enfin, restez bien avec nous. Dans 10 minutes, vous retrouvez Claudie Ciard et Couleur Tropicale. Après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, des dizaines de milliers de Libanais rentrent chez eux. Près d'un million d'entre eux ont dû fuir les combats. Ils retrouvent peu à peu leur ville et leur village dévastés par 14 mois de conflit, dont 2 mois de guerre totale, qui ont fait 3800 morts côté libanais depuis le 23 septembre dernier. Un cessez-le-feu célébré ce soir comme une victoire sur Israël de la part du Hezbollah. De l'autre côté de la frontière, ce sont près de 60 000 Israéliens déplacés qui vont pouvoir regagner le nord du pays dans des régions bombardées par le Hezbollah. Des déplacés israéliens qui accueillent cette annonce de cessez-le-feu avec beaucoup de scepticisme. Certains vont même jusqu'à accuser leur gouvernement d'avoir capitulé. Reportage à Jérusalem de Sami Prolifa.
Cela fait un an et deux mois que je vis à l'hôtel, annonce d'emblée Sarah Beaton. L'hôtel, c'est bien pour une semaine, mais pas pour aussi longtemps, poursuit cette grand-mère originaire de Kiryat Shmona, à la lisière du Liban. Cessez-le-feu ou pas, elle restera à Jérusalem.
J'aimerais bien retourner dans le nord, mais je ne m'y sentirais pas en sécurité si le Hezbollah est toujours près de la frontière. On ne peut pas leur faire confiance. Il est possible qu'ils s'éloignent un peu de la frontière, mais l'armée israélienne doit rester au Liban pour garantir qu'ils ne s'approchent plus de nous.
Pourtant, l'accord de cessez-le-feu prévoit bien le retrait de l'armée israélienne du territoire libanais. Raymond Fedida, la belle-sœur de Sarah, est sceptique.
Je ne sais pas, ni le date.
Elle ne sait pas quoi penser de ce cessez-le-feu.
Il faut éradiquer le Hezbollah et ensuite on pourra rentrer chez nous. La situation est très difficile. Je suis ici avec mon mari. J'ai un fils qui est aussi déplacé à Jérusalem et deux autres fils qui sont ailleurs dans le pays. On n'arrive même plus à se voir. On est éparpillés à travers tout le territoire.
Israël n'a pas encore autorisé officiellement ses 60 000 déplacés à revenir chez eux. Benjamin Netanyahou avait pourtant fait de ce retour des déplacés un objectif de sa guerre contre le Liban. Sami Bourfi à Jérusalem, RFI.
Et côté libanais, l'armée israélienne continue pour l'instant de filtrer les mouvements de population à la frontière sud. Certains déplacés ont quand même pu regagner progressivement leur foyer, comme Felicidad, vénézuélienne habitante du sud Liban, l'une des régions les plus touchées par la guerre. Dès qu'elle a entendu l'annonce du cessez-le-feu, elle est montée dans un camion avec sa famille pour rentrer chez elle.
Ils nous ont dit qu'à 4 heures, ils allaient arrêter la guerre. Nous avons quitté la maison sans rien. Mon mari a dû louer un camion. Nous sommes montés dans le camion. Nous rentrons à la maison, mais nous sommes à environ 2 heures de route parce que les routes sont bouchées. Il y a trop de véhicules. La plupart des gens montent dans les villages. Je ne sais pas s'il reste encore la moitié de ma maison ou si tout s'est effondré. On ne sait rien, absolument rien. Mais je remercie Dieu. Je suis heureuse. Oui, mais pour le moment, enfin, pas tant que ça, parce que j'ai perdu presque la moitié de la maison, j'ai perdu mon magasin, j'ai tout perdu. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Les biens matériels peuvent se récupérer.
Felicidad, vénézuélienne habitante du sud Liban, jointe par Manuel Terradios de la rédaction en espagnol de RFI. Benjamin Netanyahou, de son côté, a vu la France ce mercredi lui accorder une immunité, et ce, en dépit du mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Ce, contrairement à l'Italie et au Royaume-Uni, par exemple, autres pays signataires du statut de Rome, qui ont, eux, immédiatement annoncé qu'ils respecteraient leur engagement auprès de la CPI. La France qui entend continuer à travailler en étroite relation avec le Premier ministre israélien, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Israël qui a par ailleurs fait appel de la décision de la CPI après les mandats d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et contre son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Toujours au Proche-Orient, en Syrie, 57 morts ce mercredi lors de violents affrontements entre soldats syriens et djihadistes. Cela s'est passé dans le nord du pays, dans la province d'Alep, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour la première fois depuis des années, des avions syriens ont participé à des bombardements dans la zone aux côtés d'avions russes, selon l'Observatoire. RFI 22h05 à Windhoek, en Namibie. Longue journée de vote, les élections législatives et présidentielles se tenaient aujourd'hui et la SWAPO, parti historique au pouvoir, est menacée. Les électeurs qui ont fait preuve de patience pendant parfois de longues heures dans d'interminables files d'attente. La vice-présidente Netumbo Nandi-Ndaiwa, qui pourrait devenir à 72 ans la première femme présidente du pays, la deuxième, dans ce deuxième en tout cas pays le plus inégalitaire au monde, derrière l'Afrique du Sud selon l'OMS, celle que l'on surnomme Triple N, qui pourrait cependant être poussée vers un second tour inédit. Et puis au Mozambique, nouvelle répression sanglante des autorités. Deux manifestants ont été tués par les forces de l'ordre et une femme a été fauchée par un véhicule de police. Lors d'un nouveau rassemblement de soutien à l'opposant Venancio Mondlane, qui conteste les résultats des élections du 9 octobre dernier, qui avait à nouveau sacré le Frelimo et mené Daniel Chapeau à la présidence. Au moins 67 personnes ont été tuées dans les troubles post-électoraux, selon la plateforme électorale. L'actualité africaine sur laquelle nous reviendrons à partir de 22h30 temps universel avec Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Au Pakistan, à présent, le calme après la tempête. Islamabad, qui vit au rythme des manifestations et des affrontements entre les forces de l'ordre et les sympathisants d'Imran Khan, ancienne star du cricket et surtout ancien premier ministre derrière les barreaux. Des manifestations dispersées aujourd'hui dans la capitale, des centaines de supporters d'Imran Khan ont été arrêtés et 5 membres des forces de l'ordre ont été tués. Islamabad, qui retrouve ce soir un petit peu de sérénité. Eike Schmidt.
Des employés municipaux dégagent les cendres et les débris pour faire place nette. Les policiers anti-émeutes quittent le quartier gouvernemental des Chowk car les militants du parti Tehreek-e-Insaf PTI ont battu en retraite dans la nuit. Avec à leur tête l'épouse d'Imran Khan, Bushra Bibi, tout juste sortie de prison. Aux rumeurs selon lesquelles elle et un autre proche de l'ex-premier ministre, le gouverneur Ali Amin Gandapur, auraient été arrêtés. Le ministre de l'intérieur, Mohsin Naqvi, a répondu sur un ton moqueur « Ils ont fui ». L'ancienne star de cricket, Imran Khan, qui tire depuis sa cellule les ficelles de ce mouvement demandant sa libération, risque de sortir affaibli par ce bras de fer avec le gouvernement. Le pouvoir en place, soutenu par la toute-puissante armée, ne semble pas être ébranlé par ses appels répétés au soulèvement.
Eike Schmidt du service international de RFI. En Australie, les adolescents du pays, bientôt privés de réseaux sociaux, les moins de 16 ans, pourraient devoir désinstaller X, Facebook, Instagram et TikTok, car les députés ont en tout cas donné leur feu vert à ce projet de loi qui doit désormais être débattu au Sénat. Le Premier ministre qui pointe la pression sociale, l'anxiété suscitée et les prédateurs sexuels en ligne pour justifier son choix. Les plateformes citées vont devoir prendre des mesures pour empêcher les moins de 16 ans d'accéder à leur réseau. Elles dénoncent de leur côté une décision précipitée. Et puis en Chine, le géant de l'automobile Volkswagen qui annonce se retirer du Xinjiang. Le groupe allemand qui évoque des raisons économiques, mais son implantation dans cette région chinoise de l'Est était très critiquée. L'usine Volkswagen sur place était soupçonnée d'avoir eu recours au travail forcé de la minorité ouïghour, Nathanaël Vitran.
Volkswagen était implanté à Urumqi, la capitale du Xinjiang, depuis 2013. Comme la plupart des grands groupes internationaux, elle y avait un partenaire local, l'entreprise publique chinoise SAIC Motor. Ses parts dans l'usine et dans une piste d'essai située dans la même région doivent être cédées à une autre entreprise d'État chinoise. Pendant 10 ans, les partenariats de ce type ont permis aux constructeurs occidentaux d'exporter massivement en Chine. Mais désormais, ce sont les voitures chinoises qui menacent d'inonder le marché européen. Au point que Volkswagen envisage de fermer des usines en Allemagne. En se retirant du Xinjiang, l'entreprise allemande fait rentrer de l'argent dans les caisses, mais espère aussi éteindre les critiques, alors que sa présence était de plus en plus contestée. Au-delà de son image dans l'opinion publique, alors que Pékin est accusé d'avoir interné plus d'un million de Ouïghours et de pratiquer la torture, la stérilisation et le travail forcé, la pression est aussi venue de Washington, qui en fin de semaine dernière a renforcé la liste noire des entreprises interdites d'exporter aux États-Unis en raison de leur présence dans le Xinjiang.
Nathanaël Vitran, et puis on ne va pas se quitter sans un petit mot de football. Suite et fin de la 5e journée de la Ligue des Champions ce soir, avec un choc XXL qui vient de démarrer, Liverpool-Real Madrid. C'était une finale en 2022, remportée, souvenez-vous, par les Madrilènes 1-0. Revanche à Anfield ce soir, entre le 3e de la Ligue des Champions et le 21e, le Real qui a besoin de points. Ça vient donc de débuter 0-0 pour l'instant. À suivre aussi Monaco-Benfica, Bologne-Ligne, Bologne-Lille et Aston Villa-Juventus-Turin. Un peu plus tôt, l'étoile rouge de Belgrade a étrié Stuttgart 5-1 avec un but du Congolais Silas Katampa. Pour l'heure, moi je vous laisse avec Claudie Ciard et Couleur Tropicale. Excellente soirée à l'écoute de RFI.